Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invitée est la romancière Constance Debré.
J'ai décidé à un moment de ne pas avoir de bibliothèque. Les livres sont faits pour être lus. Les livres, c'est rien, c'est pas quelque chose de matériel. Les livres ne sont pas des tableaux. C'est comme de la musique, justement. Ce sont des signes qui nous traversent le cortex. Et combien de lettres dans l'alphabet? Vous allez me le dire? 26 lettres? Bon, voilà. Et ben, ce ne sont que des jeux avec 26 signes typographiques. Ça n'est que ça.
Si je vous dis Love Me Tender, vous pensez forcément à la ballade langoureuse d'Elvis Presley. Le nouveau roman de Constance Debré, qui paraît chez Flammarion, a le même titre, mais c'est une mélodie plus rock qu'elle propose. Un chant de révolte et d'indépendance, à la fois intimiste et universel. Love Me Tender, c'est la suite directe de Playboy, paru en 2018. Un livre dans lequel la petite fille de Michel Debré, l'un des fondateurs de la Ve République, racontait sa rupture avec la grande bourgeoisie dans laquelle elle a grandi. Avec le métier d'avocat pénaliste qu'elle a exercé pendant plusieurs années pour se consacrer à l'écriture, mais aussi avec le père de son fils, afin de vivre pleinement son désir pour les femmes. Love Me Tender explore les conséquences directes de cette nouvelle vie. Privée de son fils par son ex-mari, qui la juge dangereuse pour leur enfant, Constance se débat avec l'hypocrisie de la société, les amours sans lendemain et le chagrin qui la guette. Elle nage, elle baise, elle déménage et elle écrit. Des mots qui cognent et qui claquent pour raconter sa vérité, avec un style brut, dépouillé, sans concession. Love Me Tender est un roman à l'énergie dévorante dont je suis allé discuter avec son héroïne, chez son éditeur, par une après-midi orageuse. Bonjour Constance Debré.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
Vous êtes en forme?
Plutôt, oui.
Est-ce que vous avez nagé aujourd'hui?
Absolument.
C'est vrai? C'est tous les jours que vous nagez?
C'est tous les jours. Et quand par ailleurs, quand par exception, je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Ce qui prouve que c'est une vraie addiction, que mon corps et mon cerveau sont habitués, que tout ça va très mal en fait. Mais si c'est une drogue qui me fait du bien, je continue. Je continue donc.
Ouais, c'est une belle drogue.
Bon, écoutez, voilà.
C'est une drogue douce.
Ouais, sans doute.
Constance, vous venez de publier Love Me Tender, un livre moi qui m'a beaucoup plu, qui m'a secoué, qui m'a attrapé en une après-midi. Hein, j'ai pas pu le lâcher du moment où je l'ai commencé. Je voudrais parler un petit peu de vous déjà. Puis vous savez que c'est un podcast qui est consacré au plaisir de lire, de la lecture. Constance, vous avez changé de vie, de milieu, de métier, de look, de sexualité.
On exagère beaucoup tout ça. Mais c'est complètement... Mais absolument.
Est-ce que vous avez fait tout ça à cause des livres?
Non, mais je... tout ce que j'ai fait, d'abord, j'ai pas changé de look. Je me suis toujours habillée comme je suis habillée. Les cheveux courts, je les ai eus la moitié de ma vie. Voilà, donc ça, c'est une sorte de fantasme. On imagine une meuf en tailleur Chanel qui va finir en doc et tatouée. C'est faux. Alors, j'ai accusé un peu des trucs, mais... Et quant à ma vie, oui, bah, j'ai jamais eu des grands apparts, une vie très rangée. Oui, j'étais vaguement avocat avec un mec et... Voilà, c'était un peu plus dans les clous, mais on exagère les clichés comme ça. Mais oui, bien sûr que j'ai fait ça pour. Ce que j'ai fait, c'est que tout ce que je peux dire, c'est qu'à un moment, je me suis mise à plus avoir envie d'être dans un bureau et ce qui a toujours été dur. Bah, je pense que ça l'est pour tout le monde. Moi, ça l'était. Même si j'ai une période de où j'étais avocat pénaliste, il y avait quand même un truc assez bien, enfin que j'ai aimé, mais oui, écrire, c'est quand même une des activités humaines les plus intéressantes qui soient. Donc ça, ouais, bien sûr, c'est le truc le plus important. Que par ailleurs, ça s'accompagne d'une plus grande liberté dans l'organisation de ces journées, ce n'est pas quelque chose qui pour me déplaire.
Est-ce que quand vous étiez plus jeune, ou même avant ce changement, est-ce qu'il y avait des livres qui vous murmuraient à l'oreille, comme ça, tout bas, vas-y, sois forte, assume ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être? Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont amené
Je pense que les livres, tout ce qu'on lit, à commencer par les livres qu'on lit quand on est enfant, qu'est-ce qu'on lit quand on est enfant ? Des livres ou des BD, ou même des dessins animés qui racontent l'histoire d'un héros qui va à l'aventure. Moi, je suis peut-être restée bloquée à ce stade-là. En fait, je cherche pas autre chose depuis toujours, même si j'ai du mal à le trouver, mais qu'être un héros qui va à l'aventure, en fait. Et oui, je pense que je n'ouvre pas un livre, je n'ai jamais ouvert un livre depuis que je sais lire, sans y chercher un mode d'emploi, d'existence. Comment être un héros qui vit des aventures ? C'est tout ce que je cherche. Voilà. Et curieusement, j'ai l'impression que pour moi, ça passe un peu par le fait d'être celui qui écrit le livre sur le héros qui va à l'aventure. C'est comme ça que je deviens le héros. Je suis à la fois le savant fou et le rat du laboratoire.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de livre qui vous parlait directement, qui vous racontait, ce que vous aviez dans la tête ?
C'est-à-dire que à peu près tous les livres qu'on aime ou qu'on lit à un moment sont des livres, sinon on ne les lit pas, qui nous parlent directement. Quand on lit, j'en sais rien, et ce n'est pas un livre qui m'a particulièrement marqué, mais c'est pour vous montrer la distance. Quand on lit Anna Karénine, on est là, on est là-bas, à cette époque, avec ces personnages qui n'ont pas grand rapport avec nous. Mais c'est ça. Vous voulez que je vous donne une liste de livres ?
Non, j'ai pas envie d'une liste bien précise.
J'en sais rien. Moi, je me souviens que ce soit Le Comte de Monte Cristo quand j'avais 14 ans ou Proust à 17 ans. C'est des premiers trucs qui m'ont attrapé très très violemment, ouais, je pense. Mais avant, il y a eu Tintin. Et puis depuis, il y en a eu quand même pas mal, ouais.
Il y en a. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui vous donne envie d'écrire, par contre ?
Tous les grands livres me donnent envie d'écrire. Ça, c'est un truc qui est. Mais tant qu'on. Bien sûr qu'on le voit, ça, quand on lit. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont. Mais ça ne peut se réaliser que quand on a quelque chose, quand on a quelque chose à écrire. C'est pas. Vous savez, les gens qui disent je veux vivre, mais bon, ça va. Ou je veux vivre plus, ou je voudrais aimer, ou je voudrais. Très bien. Ça n'existe pas tant que le geste. N'est pas réalisé. Oui, bien sûr, moi je suis trop. Je veux trop les choses pour me contenter de dire ah, c'est super, hein, je lis. Mais d'ailleurs, je comprends même pas en fait qu'on lise tous ces livres qui vous parlent de liberté et de choix finalement radicaux en restant dans des visages. Comme si c'était juste une distraction, un peu d'air, et puis on. Ensuite, on refermait la porte et tout allait bien. En fait, la plupart des livres devraient entraîner des révolutions, des divorces, des changements de vie. Oui, je prends les livres très, très au sérieux. Je les prends presque au premier degré. Donc ils poussent tous à vivre autrement.
C'est quoi le message de Love Me Tender plutôt ? Pas le message. Ça pourrait être un message. Non, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre au lecteur avec Love Me Tender ? Moi, je vous dirai après ce que ça m'a fait ressentir, ce que ça m'a donné. Mais est-ce que vous aviez envie de faire sentir un truc au lecteur ?
J'en sais rien. Moi, j'ai... Oui, enfin, tous les sentiments qui traversent les pages et qui sont contradictoires et fluctuants, je les mets là en pensant qu'ils expriment des sentiments, des situations qu'on a tous éprouvées et qui sont vraies. Ça, c'est vrai. Des choses vraies. Je sens quand j'écris. Et ça peut être encore une fois des choses très très opposées. Par exemple sur la maternité, à un moment des trucs enfin voilà, de grand amour et puis des moments qui sont pas des moments de grand amour et les deux sont vrais. Par exemple, mais c'est pas la question de la maternité, c'est pas qu'il n'y a pas que ça. J'espère juste qu'à ces moments-là, quand le lecteur lit mes phrases, lui aussi va se dire ah oui, mais même de façon confuse, ah oui, ça c'est vrai, lui aussi ça cogne à un endroit du cerveau, ouais. Dit, oui, ça c'est vrai, il n'y a pas de message. Parce que ça n'existe pas, les livres qui... Ou alors, à mon avis, ils sont ratés, en fait, les livres qui ont un message. Parce que si la littérature nous intéresse tous, c'est parce qu'elle nous dit ce qu'il y a de confus dans nos existences. En fait, c'est une sorte de gros bordel, ce qu'on est nous-mêmes et la vie. Voilà. Et qu'on est parfois, justement, traversé par des pulsions de... soit de tristesse, soit de colère, soit de joie, j'en sais rien, par toutes ces choses-là, par cette confusion même d'ailleurs parfois, oui, c'est peut-être quelque chose qui doit être dit à un moment. Il faut dire que comme maintenant ça va pas toujours très bien en fait dans toute cette vie bizarre qu'on mène. voilà. Et peut-être que d'ailleurs c'est pas grave, c'est même quelque chose de joyeux que ça n'aille pas si bien. Mais il n'y a pas de message.
Alors moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'est que malgré tout... Alors, ce livre, il parle un petit peu de votre vie après Playboy, après la sortie du livre, son succès, son retentissement public et dans la sphère privée. Et on imagine, on comprend, on sent que qu'il y a eu de l'incompréhension, de la souffrance, de la révolte autour de vous, que vous avez dû encaisser certaines choses... Mais c'est jamais, ce livre-là, votre livre, Love Me Tender, il est jamais triste. C'est un livre qui le livre de quelqu'un qui reste forte, qui reste droite et qui va toujours de l'avant. Et finalement, c'est un livre positif malgré tout, quoi. Et cette envie là de rester forte, de s'affirmer, de dire aux gens n'ayez pas peur d'être. Ce que vous êtes, ça c'est important pour vous, non?
Bah oui, c'est important. Enfin, c'est important. C'est pas qu'une question d'orgueil, mais il y a de l'orgueil. Et puis non, mais je sais pas. Moi, ça m'intéresse vachement ce qui se passe. Et j'ai pas peur des choses un peu compliquées. Même, je vous disais au début que j'aimais l'idée d'être un héros qui vit des aventures. L'aventure, c'est ça. Ce sont des choses difficiles. Il suffit de lire même un Tintin pour comprendre que Tintin, par moment, il est dans des situations difficiles. Alors, soit on veut l'aventure, soit on veut pas l'aventure. Non, mais c'est comme ça ou bien c'est comme ça. Bon, et ben moi, je veux l'aventure. Donc, quand il y a des trucs un peu durs, ben oui, bien sûr que je les en... Quand c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Bon. Mais c'est pas grave. C'est intéressant. Parce que c'est là qu'on voit si on est un héros ou pas, si on s'en sort ou si on s'en sort pas.
Puis un héros, ça se relève toujours, en fait.
Exactement, voilà. Hein ouais. Ou pas, hein, c'est ça le risque, il faut qu'il y ait un risque. Il faut qu'il y ait un risque de perdre. Et tout ça est, encore une fois, assez, assez relatif. Ça se passe à Paris. Je n'ai pas été poursuivie par des tueurs. Et j'ai eu 2-3 repas par jour. Donc, tout va bien. Mais oui, moi, j'aime bien un peu qu'il y ait un peu d'aventure. Hein. Qu'il se passe des choses. Et qu'il y ait du risque. Moi, non.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un personnage de roman?
Je pourrais dire, ce serait... Tout le monde peut être un personnage de roman. Il y a des personnages de roman, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai, il y a des personnages de roman. Par exemple... Un homme qui dort de Pérec, le mec il fait rien. D'ailleurs, il le fait très très bien, rien. Mais c'est bon, magistral. Donc, être un personnage de roman, ça veut pas dire grand chose, mais on l'est et on l'est pas. Et c'est d'ailleurs assez curieux dans ce truc de la promo, de voir à quel point. Mais bien sûr que je joue avec ça, puisque je me mets en scène, en quelque sorte, dans un livre, en disant que c'est effectivement ma vraie vie. Donc il y a une confusion, souvent, l'esprit des gens entre moi et ce que je suis. Mais peut-être qu'en fait, tiens, je vais vous dire un truc un peu moins plat, peut-être. C'est que peut-être que mon personnage, parfois, me sauve de moi-même. Voilà. Parfois, j'ai besoin de ça, je pense. Alors parfois il m'enferme, il me limite et il me plombe, celui-là de personnage, mais parfois il me sauve. Et puis alors si je suis un personnage de roman, puisque c'est moi qui l'ai fait les romans, après tout il n'appartient qu'à moi de le modifier s'il me va pas mon mon héros.
Mais la notion de roman, c'est quand même important. C'est écrit dessus. Ce livre-là, c'est pas un témoignage.
Oh ben non.
C'est important que les gens
merci.
Sachent.
Un témoignage. D'abord, je sais. Franchement, ça m'aurait tellement ennuyé de raconter ma vie. Mais c'est vrai, je n'arrive même pas à la raconter à mes copains. Il y a des gens qui arrivent à parler très très longtemps comme ça au café. Ils se racontent pendant des heures. Je dis pas que je le fais pas, mais. Moi, c'est toujours en deux phrases parce que ça m'intéresse assez peu. Ce qui est amusant, c'est d'en faire quelque chose, d'en faire une proposition. De faire un héros, d'aller plus loin dans deux trois choses qui ont été vécues pour que ça ait un sens littéraire. Et il me semble. Donc non, c'est pas du récit. Heureusement, moi je peux pas les lire les récits, donc je vais pas en plus m'emmerder à les écrire.
Je reviens sur les livres qui vous ont inspiré. Vous avez une façon d'écrire très 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 brute, très directe, très énergique, avec des phrases courtes. Ce style, est-ce que vous l'avez fabriqué et est-ce que vous l'avez fait évoluer au fil du temps? Est-ce qu'il est venu comme ça un jour?
Non, mais rien ne vient comme ça, en fait. La façon de marcher, elle ne vient pas comme ça. La façon de s'habiller, elle ne vient pas comme ça. Rien ne vient comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de naturel. Tout n'est pas calculé. Mais bien sûr que ce sont des décisions esthétiques, en quelque sorte. Et qui sont le fruit de réflexions et de beaucoup de livres qu'on a lus. Et de notre goût aussi, voilà, de ce qu'on aime et de ce qu'on pense. Et quand je dis le goût, ça ne veut pas dire je préfère le rouge au bleu, etc. Je pense que tout ne se vaut pas. Et ce n'est pas du tout chacun ses goûts. Et donc, mais à un moment, on prend des décisions. Et je pense qu'il ne faut surtout pas faire du joli. Que le beau est à l'opposé du joli, et que donc il y a ce choix-là, que la langue écrite doit être la plus légère possible pour permettre d'accéder au sens, aux émotions. Donc elle doit, à mon sens, en tout cas celle que je pratique, ne doit pas être trop éloignée de l'oral, même si c'est complètement travaillé, donc du coup c'est... on y réfléchit beaucoup. Hein. Moi, je pense 98% de mon temps d'écriture, il est consacré à relire et à corriger ce que j'ai.
Les relire, 2%, réécrire. Ouais.
Ah bah oui. Donc c'est ça. Il faut que ce soit pas trop appuyé, mais que ça saisisse suffisamment léger pour que le lecteur ne s'arrête pas à la phrase, mais passe à travers. Voilà, enfin, je dis, c'est un peu ça.
J'aurais dit que vous étiez un personnage rock, mais je crois que vous écoutez pas mal de rap.
J'écoute ouais. Quand même beaucoup plus de rap.
Que de rap.
Beaucoup plus, oui. Ah, ben, il y a des choses que j'aime beaucoup dans le rap parce que, d'abord, la langue, il y a tout un univers. Bien sûr. Mais non, je suis. Ma culture musicale, elle est classique et rock. Voilà, en vrai.
Donc il n'y a pas une influence du rap sur votre façon d'écrire? Un peu quand même.
En tout cas, je m'y retrouve, oui, dans le rap, pour ça, ouais, je pense.
Vous écoutez qui comme rappeur?
Moi, j'écoute les vieux des années 90, de la côte Est essentiellement, quand même.
Donc plutôt américain que français?
Oui, même s'il y a de très beaux textes en français, mais non, je sais pas, moi, je suis... Mais vraiment, alors là, je suis... Encore une fois, je pas forcément là que je suis le plus cultivée, mais j'aime toujours MTM, quoi. Voilà, il y a des trucs vraiment super classiques, quoi. Voilà. Non, alors il y a une petite Kate Tempest qui est, je trouve absolument qui me charme beaucoup, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Voilà.
Ouais, Kate Tempest, ouais, elle est super.
Elle est chouette. Ouais.
Constance, à tous mes invités, je fais passer un petit test de... Oh, c'est pas de la philo, hein. Mais vous savez que le podcast s'intitule Les gens qui lisent sont plus heureux. Je veux savoir si vous êtes d'accord avec ce que j'énonce dans le titre de mon programme. Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, Constance de Bray?
Non, je pense pas, j'en sais rien. Je pense pas que la question du bonheur m'intéresse. ne m'intéresse pas. Je pense que je sais pas. Avoir une belle vie. Non, je dis plutôt des préoccupations, disons, morales, de liberté, d'intelligence. Je pense que ce qu'on doit être, c'est une vraie question. Ce qu'on doit être. Être heureux, tant mieux si on l'est. Et je pense que si on est à sa bonne place, on peut l'être un peu plus facilement, mais c'est pas le but. Enfin, c'est pas le but. Le but n'étant pas non plus d'être malheureux. Hein. Je pense que si on est malheureux, c'est le signe d'autre chose. C'est le signe qu'on n'est pas à la bonne place. En revanche, peut-être que la lecture rend plus intelligent, Et plus intelligent, ça veut dire plus moral, et ça veut dire plus libre, ça veut dire capable de se décentrer, de s'oublier, d'être à d'autres places. Oui, plus heureux. Je ne me prononce pas.
Ouais, vous, la lecture, c'est ce qu'elle provoque en vous, c'est ça, c'est plus de liberté, plus de réflexion, pas forcément plus de bonheur.
Non. Bon, par ailleurs, j'aime bien, c'est aussi un plaisir. Je dois dire. C'est un plaisir. Bah oui. Mais parce que je fais partie de ceux qui ont pris ce geste-là assez tôt et que c'est quelque chose de super naturel. De s'absenter du monde ou d'aller se. Réfléchir ou d'aller éprouver des émotions très 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 violentes, se confronter à d'essayer de déguiser ce qu'on pense en ouvrant un livre, ça c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup fait. Et d'ailleurs je m'aperçois que parfois je me dis ah oui, on m'a parlé de telle série ou de tel film qu'il faudrait que j'aille voir, que je regarde, machin. J'ai du mal à le faire parce que mon réflexe c'est le livre. Parfois je me dis il faut que je regarde cette série comme si c'était un boulot à faire en fait. Contre le livre.
C'est-à-dire que le livre, c'est une seconde nature, c'est charnel.
Charnel, mais d'ailleurs, il m'arrive aussi de pas lire ou de pas savoir trop quoi lire, et j'ouvre des livres 2 heures, et puis et où j'ai pas grand-chose, c'est pas tout me passionne pas, j'y passe pas forcément 5 heures par jour, ça dépend, c'est par période aussi.
Dans le livre et dans la vraie vie, je pense que vous avez pas mal déménagé ces dernières années.
Ouais.
Est-ce que forcément on est obligé de laisser les livres derrière soi?
Ah mais c'est super important. Ça c'est pas, c'est même pas forcément. C'est, je pense que je l'ai fait à la fois par nécessité, par plaisir, parce que se débarrasser franchement des affaires, des objets, de 3 assiettes, 2 fauteuils, ça, qu'est-ce qu'on a à foutre, hein, je veux dire. Même pas parler de ça, même pas. En revanche, se débarrasser des livres, ça c'est vachement plus intéressant. Moi, j'ai décidé à un moment de ne pas avoir de bibliothèque parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. C'est plus contre-intuitif, on va dire. Je pense pas que la possession des livres dise quoi que ce soit de soi, que ça nous aide à quoi que ce soit. Les livres, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Matériellement et donc symboliquement, et que l'idée de ne pas avoir de livres, moi, c'est quelque chose auquel j'essaye de me tenir. Effectivement, j'ai tout vidé il y a quelques années, et bien sûr qu'il me manque. Hein.
Oui.
Et les livres, ça rentre, puisque je lis, bon, bah voilà. Mais j'essaie de m'y tenir. Et donc, quand je vois les piles monter ou s'accumuler, hop, je refais un tri et je les revends, jette, donne. J'y tiens pour plein de raisons. Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. En fait. Quand ils ne sont pas là, on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'il faut plus compter sur ce qui est à l'intérieur de soi qu'autour.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand on fait des piles de livres autour de soi, même des piles de disques ou d'autres biens culturels, ça veut dire qu'on est en train de s'encrouter, en train
ça
de...
Ça veut dire rien. Et alors, en fait, qu'il soit là ou pas là, il ne se passe rien. Hein. Il se passe rien, c'est juste à prendre la place, à prendre la poussière. On n'est pas plus intelligent, peut-être de les avoir lus et qu'ils soient... Et, parce qu'en fait, on se dit, on les laisse là, on va les relire, on va les ouvrir. Parfois oui, parfois non. Ce qui est important, c'est des trucs qui ont traversé notre cerveau et qui restent et qu'on oublie d'ailleurs beaucoup. Et c'est très, on les oublie, heureusement qu'on les oublie. Et puis par ailleurs, moi, je tiens à ce truc de tout tenir dans deux sacs et pour me dire que je peux partir demain, que je peux faire plein de choses. C'est important. Et même pour écrire, je pense qu'on écrit mieux sans rien et qu'on vit mieux sans rien. Enfin, en tout cas, moi, comme ça, je préfère me situer comme ça. Ça m'empêche pas de lire, de m'enthousiasmer pour tel livre. Et en fait, on a ce truc, on lit un livre comme ça qui vous dit ah, c'est formidable, c'est ce livre, ça y est, c'est mon livre, voyez, c'est un truc qu'on peut avoir.
On a tous ça.
Qu'on peut avoir très souvent, hein. Par moments, pas du tout, pendant des mois. Puis tout d'un coup, on dit quoi, ce livre, mais je l'avais pas lu, mais c'est extraordinaire, ça y est, c'est mon livre. En fait, qu'est-ce qui se passe si après on le jette? Parce qu'au début, on est attaché, on trouve que chaque page, enfin pas chaque page, mais un certain nombre de pages. Et en fait, non. En fait, on peut le lâcher. C'est plus intéressant de lâcher les choses. Parce qu'en fait, on les emporte jamais, les choses. Ni les êtres, d'ailleurs. Et j'aime bien cette idée de vivre sans bibliothèque.
En même temps, les livres...
Les livres sont faits pour être lus. Les livres, c'est rien. Ouais. C'est pas quelque chose de matériel. Les livres ne sont pas des tableaux. C'est comme de la musique, justement. Ce sont des signes qui nous traversent le cortex. Je rappelle que les livres, c'est... Ce qu'on appelle des livres, c'est juste... Je sais pas, il y a combien de lettres dans l'alphabet ? Vous allez me le dire ?
26 lettres.
26 lettres, bon. Voilà. Et ben, ce ne sont que des jeux avec 26 signes typographiques. Ça n'est que ça. Des signes qui, agencés d'une certaine manière, font des sons dans la tête, des images, des idées. Voilà, c'est tout. Donc le papier, la couverture, tout ça, c'est rien. C'est pas ça, le livre.
Est-ce que vous pensez déjà à un prochain livre en ce moment ? Est-ce que vous travaillez déjà là-dessus ?
Oui.
Et ça vous quitte jamais ? Vous avez à peine terminé le précédent, vous étiez déjà sur le suivant ?
Bah, moi, en vrai, j'ai besoin de travailler, moi. J'ai besoin de faire marcher mon cerveau et mon corps. Et le corps, bah, j'ai trouvé... Voilà, j'ai besoin de faire du sport. C'est ça, hein, c'est la question de l'usage de soi. C'est peut-être névrotique. Mais moi, je ne suis pas du tout dans un truc hédoniste de vacances. Je déteste, par exemple, les vacances. Je déteste le travail, la forme classique du travail. Mais j'ai besoin de travailler. Et quand je ne le fais pas, je me sens coupable. Enfin, j'ai tous ces trucs-là. Je ne suis pas si libre qu'on croit. Mais donc, bien sûr, je suis... Dès que j'ai fini mon livre, dès que je finis un livre en me disant, je passe mon temps à me dire, est-ce que je vais trouver le livre, je crois que j'ai trouvé le livre, j'ai hâte d'avoir fini le livre, j'ai hâte d'avoir fini le livre, ça va être formidable. Et puis une fois qu'il est fini, je me dis, c'est cool, en fait, je vais pouvoir me reposer, me passer à autre chose, profiter un peu de. Bon, et 24 heures passent, et je suis là, mais qu'est-ce que je vais écrire, Et c'est reparti. Mais c'est pas comme je suis pas reparti par. C'est pas la muse qui me tape derrière l'épaule et qui me met à l'ordinateur et qui me souffle des trucs. Non, c'est là, je cherche le livre. Voilà, donc je suis en train de. J'essaye de travailler, oui, à un prochain livre.
Est-ce que vous pouvez, dans votre vie d'avocate, vous avez défendu
toutes sortes de gens,
des criminels, ouais. des gens. Est-ce que vous pourriez écrire des polars ? Est-ce que ça vous amuserait ?
Pas du tout ? Non.
Pourquoi ?
Ben, j'ai pas le talent. Moi, j'aime les lire, les polars. À une époque, j'aimais beaucoup ça. Je lisais beaucoup. Ben non, c'est pas du tout mon registre. Et d'ailleurs, c'était pas mon approche. S'il y avait une. Enfin, c'est pas du tout mon approche des dossiers, disons. C'est pas un truc de polar. C'est plutôt. C'était des vies faites de violence. Pour le coup, je trouve qu'il y avait un vrai lien, hein, entre la littérature et le monde que j'ai vu. Quand j'étais avocat pénaliste, et je défendais, hein, plus que les représentants et partis civils. Et donc c'est des vies tragiques au sens vraiment de la tragédie souvent. Et c'est ça que je trouvais très beau. J'ai un peu de mal, enfin, c'est un peu obscène d'employer le mot de beauté parce que c'est des vies souvent très douloureuses qu'on voit en fait quand on défend des accusés ou des prévenus. Mais
ça vous manque pas?
Non, ça me manque pas. C'est quelque chose qui a eu du sens et que je suis contente d'avoir fait, d'avoir vu des gens qui avaient des vies vachement beaucoup plus dures que les miennes. Et oui, si, je pense que c'est une grande école de. Enfin, ça m'intéresse, les chutes, pas que, mais. Et puis c'est beau de défendre quelqu'un que tout le monde a déjà jugé et que tout le monde a toujours abandonné, en fait. Justement, je crois que ça aussi c'est une vraie distinction. Si vous dites ceux qui lisent, ceux qui lisent pas, il y a ceux qui jugent en fait et ceux qui défendent. Moi j'ai beaucoup de mal avec la position de juge et de jugement. Je déteste les positions péremptoires, vraiment. En revanche, défendre, c'est défendre vraiment ceux que tout le monde a déjà jugé. Et ça j'ai aimé, et puis quelque chose de combatif. Contre une violence qui est, au moment du procès, celle de l'État et celle de la société, qui m'a toujours répugné, ouais. Donc, mais non, ça me manque pas. Je fais quelque chose qui me paraît beaucoup plus. Je pense que l'art, c'est plus important. C'est plus important. Même.
Parce que c'est intéressant que vous disiez ça, ouais.
Oui, je pense que c'est plus important, oui. Puisque la question c'est quand même toujours celle de la liberté, et que ce soit celle que, c'est ça qu'on défend quand on est avocat, on défend la liberté vraiment fondamentalement de l'individu contre la société qui par position veut la contraindre. C'est une position, ce sont des rôles. La société ne peut pas être autrement, l'État ne peut pas être autrement. Et donc on défend les libertés, la liberté, quand on est avocat. Et à l'endroit où elle est le plus menacée, quand on fait du pénal. Et je pense que quand on fait de la littérature, on ne fait pas autre chose que d'explorer la liberté, que de la dire, que de l'élargir par ce qu'on dit dans un livre, par les phrases qu'on propose. Et je pense que c'est l'espace de la littérature, pour qui aime la liberté, est bien plus grand. Et même, pardon d'employer un mot un peu désuet, noble, qu'un prétoire.
Sur un autre.
Enfin, je dis pas ça. En tout cas, pour moi, oui, ouais. Pour moi.
Je voulais revenir sur un autre aspect de ce que vous écrivez. Alors, je me rends compte qu'en fait, on est chez Flammarion, hein, votre éditeur. On est dans le bureau où j'ai interviewé l'écrivain américain James Frey.
D'accord.
Qui a écrit Katrina. Et ça me fait penser à la dimension sensuelle, sexuelle de votre écriture. Avec lui, je parlais de quelque chose que j'aimerais parler avec vous. C'est comment on écrit la sensualité, la sexualité. C'est quoi tout à l'heure, vous parliez du fait de réécrire, de choisir les mots. Est-ce que cette dimension-là, il y a un dosage vraiment à bien trouver? Moi, je trouve que c'est un. Votre façon d'écrire cet aspect-là, elle est très, peut-être paradoxalement, très pudique.
En fait, il y a très très peu de scènes sexuelles, il n'y en a quasiment pas, c'est pas du tout quelque chose qui soit évoqué. Enfin, si, c'est évoqué par moment, En revanche, dans Playboy, je m'étais tout à fait confrontée à cet élément-là. C'était un truc pour moi, un enjeu du livre. Puisque je voulais parler de l'amour, il fallait donc parler de sexe. À moins d'être dans des histoires d'amour sans sexe, mais enfin, c'était pas le cas. Donc, il fallait en parler. Sans que ce soit une transgression, il fallait donc en parler. Et en parler vraiment. Donc ça, c'était dans Playboy. Dans Love Me Tender, c'est pas du tout le sujet. Donc il y a peut-être une scène de mémoire, ou peut-être que sont évoqués 2-3 gestes, mais c'est pas que c'est pudique, c'est que c'est pas le sujet de ce livre, et qu'il y en a pas dans le livre, en fait, des scènes de cul. Quand je me suis posé ces questions-là, je me disais qu'il fallait essayer d'écrire le plus simplement possible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout. Qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, je comprends pas. D'un certain point de vue, on parle tous de sexe. Il y a plus, soi-disant, il y a plus de tabou. Et en réalité, quand on en parle, même quand on le voit au cinéma, c'est quand même une grosse blague, pardon. Pour le coup, généralement, c'est soit vague, soit imprécis, soit des représentations qui ont.
On voit souvent le début et la fin.
Puis je sais pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors moi, j'ai pas du tout la même sexualité que les gens au cinéma, en fait. Mais je trouve ça ridicule. Puisqu'on peut raconter tout ce qui se passe, en principe, pourquoi est-ce qu'on peut la sexualité, on pourrait pas juste décrire, en fait, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les gestes? C'est tout. Moi, c'est aussi simple que ça.
Et pour vous, il y a encore énormément de tabous, y compris dans la littérature.
Sexuel, vous voulez dire?
Ouais.
Bah, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est que... c'est qu'on est en tout cas à une époque où il y a beaucoup moins de sexualité... qu'à une certaine époque dans la littérature, ça c'est sûr. Bon, voilà. Et moi, je suis quand même très frappée. C'est souvent une porte d'entrée. C'est-à-dire que j'y pensais l'autre jour. Je pense à toute une génération d'écrivains qui sont entrés et ont changé la littérature française dans les années 2000, en gros. Par exemple, vous prenez, c'est pas par exemple, c'est cette génération, je pense à Dustan, à Despentes, Angot, il y en a un certain nombre, bon, qui ont fait péter la baraque, sont entrés en littérature, généralement en disant moi je, et moi je baise, en fait, voilà. Et donc, je pense que l'écriture du jeu, qui est déjà en fait plus transgressive, enfin plus osée, plus audacieuse. Je dis pas ça pour moi, mais c'est autre chose que d'entrer en littérature par une forme de roman classique avec des personnages et une histoire. Moi, je baise, voilà. Ça, c'est un truc, un mouvement, je pense, très... très frappant et très classique. Et on voit plus trop ça, hein, ça c'est sûr.
Et comment vous l'expliquez, ça ?
Je pense pas qu'on soit une grande période de... Oui, je pense qu'il y a une période finalement assez puritaine.
Et paradoxalement, le sexe, il s'est déplacé sur Internet. On peut voir tout ce qui est possible et imaginable.
Oui, mais c'est vrai qu'on voit les choses. Et puis d'abord, je sais pas ce qu'on voit sur Internet soit toujours très... représentatif, soit qu'on aille très loin dans ce qu'on voit, si je veux dire. Enfin, ça peut être très trash, sans que ça dise grand-chose. Non, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas parler... Ouais, c'est vrai, c'est une vraie question, ça. On réfléchit pas assez, on n'écrit pas assez sur la sexualité, mais je pense qu'on est à une époque finalement assez prudente. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui s'autocensurent, les maisons d'édition qui veulent pas qu'on aille trop là-dedans. Après, on peut parler de sexualité en étant très conventionnel. Ah, parce que il faut qu'il en ait un peu, sinon ça voudrait dire qu'on est coincé. D'accord. Mais bien dans les clous. Et pas trop. Pas trop, trop. Voilà. Vous savez, j'ai un ami qui est du Sud qui dit on peut boire trop, mais on peut pas boire trop, trop. Voilà. Et ben, je crois que c'est ça. On peut avoir trop de sexe, mais pas trop, trop de sexe, quand même.
et les livres ont,
Et puis il faudrait que ce, quand même que ce soit du sexe bien propre, bien comme il faut.
Les livres, il faut en lire un peu, beaucoup, trop. On n'en lit jamais assez trop.
Non, on peut très bien ne pas lire par moment, je pense.
Ouais,
ouais. Ouais. Non, faut lire des livres intelligents et les lire avec intelligence et il faut lire quand on en a besoin. Il y a beaucoup, c'est pas parce qu'on lit beaucoup qu'on peut lire beaucoup et rester con aussi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai.
Ouais.
Ouais. Et on peut ne pas lire et être smart et futé. Puis lire, ça dépend ce qu'on lit aussi. Mais comment on lit. Mais non, je ne suis pas sentir obligée de lire tout le temps, je pense.
Vous lisez, vous, en ce moment, un peu beaucoup, Constance
Alors là, je lis un peu. Je lis un peu, parce que quand j'essaye d'écrire, j'essaye de pas trop lire. Non plus. Enfin, je sais pas que j'essaye, c'est que j'essaye d'ouvrir l'ordinateur et je suis... dans un état, en ce moment, un peu chaotique, mais pour quand j'ouvre l'ordi, mais du coup, ça prend du temps d'ouvrir l'ordi. Mais sinon, je lis, oui, un peu. Je lis, j'ai commencé White, voilà, de Bret.
De Bret Easton Ellis.
Exactement.
Oui, c'est bien. C'est un personnage, pour le coup, presque à... Nous, en Europe, on le célèbre, en France en particulier.
On l'aime beaucoup,
aux États-Unis, il est plutôt...
Il y a une critique quand même de ce dernier livre. Parce qu'il n'a pas l'air d'être trop progressiste. Donc, on l'a accusé d'être trumpiste. mais ça m'intéresse de le lire. Alors, je n'ai pas lu tout de suite ce livre, mais là, je...
Oui, il n'est pas, pas super fan du mouvement MeToo. Il trouve son
compagnon. Mais moi, j'ai pas besoin. Si on lisait. Alors, moi, je supporte pas que les gens aient besoin d'être. Que les livres et les écrivains qu'ils lisent soient exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, enfin, ou disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Enfin, c'est ça, la littérature, c'est se déplacer. Donc, moi, d'abord, j'en sais rien. Peut-être que je vais être d'accord avec ce qu'il écrit. J'en sais rien. Vous me dites ça, mais je pense que c'est peut-être. Lui, il dit les choses peut-être différemment dans son livre. Et par ailleurs, faut savoir si on est libéral ou si on n'est pas libéral. Hein. Moi, je suis libéral. C'est-à-dire que je peux lire des vies, des opinions. Qui ne sont pas les miennes, c'est pas juste, je peux m'identifier à un personnage russe à la bataille de la campagne de Russie, c'est que je peux lire des opinions qui sont pas les miennes, c'est tout.
Quand vous dites libéral, c'est au sens anglo-saxon.
Au sens,
hein,
oui.
Vous n'êtes pas libéral capitaliste.
Non, ça c'est pas tellement.
Je crois pas.
Je suis plutôt dans la décroissance.
Ok, Constance, merci beaucoup pour ce petit moment
merci à
autour,
vous.
Autour des livres, autour de Love Me Tender chez Flammarion. Je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Merci,
merci.
Au revoir.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !